On est de retour avec François Lécuyer à cette émission spéciale sur l'Afrique du Sud. Alors, bonjour François.
Bonjour.
François, toi tu es chargé de projet à l'organisation Alternative. D'ailleurs, on vient d'écouter un reportage avec Dawn Paley, qui était elle aussi stagiaire il y a de cela quelques mois pour Alternative. Elle est revenue il y a un mois, c'est ça?
Oui, elle est revenue récemment, peut-être deux mois.
Donc, aujourd'hui, on se parle dans le cadre un peu des élections sud-africaines. Et puis, comme spécialiste de l'Afrique du Sud qui a vécu dans ce pays-là pendant quelque chose comme 3 ans, tu vas nous expliquer, nous guider un petit peu. Il y a beaucoup de mouvements qui se sont organisés. Entre autres, on l'a entendu, l'Anti-Privatization Forum. Il y a d'autres organisations comme l'Anti-Eviction Campaign. Et aujourd'hui, c'est aussi le moment de célébrer les 10 années de véritable démocratie, ou en fait plutôt cette année, pas seulement aujourd'hui. Mais évidemment, la démocratie généralisée en Afrique du Sud, ça a commencé quand l'ANC a pris le pouvoir, quand Mandela a pris le pouvoir en 1994. Quand on pense aussi à la prise de pouvoir de l'ANC, on pense à la fin de l'apartheid. On a souvent tendance à voir que fin de l'apartheid équivaut victoire de la démocratie populaire, victoire de l'ANC, victoire aussi des mouvements de base qui revendiquaient des droits fondamentaux et qui ont lutté pendant des nombreuses années. Mais est-ce que c'est un constat qui, selon toi, est un constat juste?
Le constat est peut-être plus juste aujourd'hui. Je ferai une petite correction à ce que tu disais, Roberto. Je veux dire, je pense pas que les gens aient été déçus quand l'ANC a pris le pouvoir. L'ANC a pris le pouvoir avec un très large consensus. Ils ont gagné les élections de 1994 avec environ 65 ou 66% du vote, avec l'appui général, un consensus social énorme de la part des organisations communautaires, de l'ensemble des forces progressistes sud-africaines. On parle des syndicats, des organisations de quartier, des ONG et l'ensemble du mouvement anti-apartheid à l'international des années 70 et 80. Et l'ANC, en respectant ce large consensus social qui demandait non seulement la fin de l'apartheid politique, mais aussi la fin de l'apartheid économique, c'était pas juste de dire tout le monde va avoir le droit de vote et on va élire le gouvernement qu'on veut. Non, l'apartheid, c'était un système économique. C'était le capitalisme à l'extrême qui bénéficiait de l'exclusion sociale, de l'exclusion économique de 90% de la population afin d'enrichir le 10-12% de population blanche qui étaient les seuls citoyens reconnus. Maintenant, ce large consensus-là reposait sur quoi? Sur un programme de développement qui s'appelait à l'époque le RDP, le programme de reconstruction et de développement, qui était le programme politique mis de l'avant par l'ANC, qui avait été développé par les syndicalistes dans les années autour de entre 91 et 93. Qu'est-ce que disait le RDP? Il faut redistribuer les richesses, il faut faire en sorte que les services publics, on parle des services de santé, d'éducation, d'eau potable, d'électricité, de logement social, d'égouts, etc., il faut que ces services-là soient mis au service de l'ensemble de la population et non pas du 12% de blancs. Et troisième problème qu'on devait régler, c'était un grave problème de chômage et un grave problème de décroissance économique. L'économie sud-africaine, à partir des émeutes de Soweto de 76, l'État sud-africain a mis tellement d'argent dans l'armée, dans la répression, a tellement emprunté pour ça, et il y avait tellement de contradictions structurelles d'économie sud-africaine que l'économie, à partir des années 77-78, est allée en décroissance jusqu'en 90. Alors, le RDP prévoyait prendre tous ces problèmes-là de front à travers un investissement massif des argents publics afin de non seulement délivrer ces services-là qui n'avaient jamais rejoint les populations des townships et des squatter camps que tu as visité plus tôt cette année, mais aussi en créant de l'emploi. C'était des programmes d'investissement public qui allaient créer de l'emploi pour les communautés défavorisées. Maintenant, et ça, tout le monde était content avec l'élection de 94 remportée par l'ANC, parce que l'ANC allait mettre de l'avant ce programme-là qui allait en partie, du moins, réduire les inégalités sociales. Ce qui a commencé à décevoir les gens énormément, c'est déjà à partir de 94, on s'est rendu compte que la droite au sein de l'ANC était de plus en plus dominante. L'ascension fulgurante de Thabo Mbeki, qui a été nommé par Mandela vice-président en 1994.
Thabo Mbeki, qui par ailleurs était une personne relativement peu connue là, avant de prendre le pouvoir.
Non, elle était relativement connue parce que le père de Thabo Mbeki était Govan Mbeki, un adversaire politique de Nelson Mandela au sein de l'ANC, parce que Govan Mbeki était beaucoup plus pro-paysan, pro-sans-terre, était beaucoup plus à gauche, que ce qui n'est pas du tout le cas de son fils Thabo Mbeki, qui est le président actuel. Mais non, Thabo Mbeki était une personne très dominante au sein du Parti communiste sud-africain dans les années 80.
Ouais. Mais il a vécu quand même beaucoup de temps dans d'autres pays qu'en Afrique du Sud.
C'est un leader de l'exil, c'est un gars de la ANC de l'exil. Il a fait ses études à Sussex, je crois.
En Angleterre.
En Angleterre, je veux dire, il a eu l'éducation pour devenir président de l'Afrique du Sud un jour. Par contre, Thabo Mbeki a été nommé par Mandela à partir de 95, à partir du moment où le ministère du RDP, qui n'avait aucun budget en 94, un an plus tard, le ministère du RDP du programme de reconstruction et de développement dont je parlais plus tôt a été fermé, et on a mis Thabo Mbeki à la tête d'une commission parlementaire sur le développement économique de l'Afrique du Sud. Cette commission-là, un an plus tard, en juin 96, a accouché d'un programme qui s'appelle le GEAR, qui est très connu par les militants sud-africains et ceux qui suivent la situation en Afrique du Sud, le croissance, emploi et redistribution, GEAR, Employment and Redistribution, qui était un changement radical, qui était une politique macroéconomique de développement pour l'Afrique du Sud, qui était totalement l'inverse du RDP. Le RDP prévoyait un investissement massif de l'État. Le GEAR, c'est un programme d'ajustement structurel maison concocté par les tenants de la droite au sein de l'ANC, qui prévoit une dérégulation totale des marchés, un retrait de l'État dans toutes les affaires socio-économiques et un programme massif de privatisation des services publics.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on a senti les effets sociaux contre les pauvres des politiques du GEAR, c'est à partir de ce moment-là que l'ANC, oui, a complètement déçu les populations en Afrique du Sud. Donc, peut-être pas chuté en matière de vote électoral, mais a commencé à décevoir, oui, l'ensemble de la population.
Oui. J'aimerais ça parler d'un des fronts de lutte sur lesquels militent là, les mouvements en Afrique du Sud, c'est le logement, parce qu'on va en parler dans le reportage qu'on va écouter. Le logement en Afrique du Sud avait promis, tu me corrigeras, de livrer 300 000 maisons à des gens qui n'en avaient pas par année après avoir pris le pouvoir en 1994. Aujourd'hui, on parlerait d'un chiffre de 1,6 million de maisons, de petites maisons, qui ont été construites. J'aimerais ça que tu me parles un peu du plan de logement de l'ANC et quelle évaluation en fais-tu? Parce que le logement, il faut le dire, c'est un gros problème en Afrique du Sud. Il y a je ne sais pas combien de millions de gens qui n'ont pas de maisons, qui vivent dans ce qu'on appelle des shacks, des cabanes, sur le bord des grandes villes.
Oui, on parle d'une population entre 12 et 15 millions de sans-terre, sans logement, et qui vivent finalement dans des shacks construits de tôles et de planches de bois et de carton, surtout en périphérie des grandes villes. On ne parle pas de la ceinture de Township, qui est la première ceinture là, de ville dortoir pour les Noirs sous l'apartheid, mais cette deuxième ceinture à Johannesburg, c'est à partir de 50 kilomètres à la ronde de Johannesburg. C'est des squatter camps, des bidonvilles comme ça. Bon, l'ANC aujourd'hui proclame qu'ils ont construit 1,6 million de logements sociaux, des chiffres que je ne remettrai pas en question, c'est vrai. Par contre, il faut mettre les choses en perspective. Déjà, sous l'apartheid, le logement social était construit, c'était l'État qui possédait les petites maisons que les gens louaient sur des périodes de 30, 40, 50 ans, qui déjà, à l'époque, on appelait ça des boîtes d'allumettes. Matchbox, pour décrire justement, je veux dire, c'est des maisons de une pièce, un et demi, deux et demi, pour des familles qui comptent 8, 10, 12 individus, très souvent. Depuis que le gouvernement de l'ANC, il y a eu une première phase entre 94 et 96 qui correspondait au GEAR, qui correspondait à la politique du RDP.
Ouais. D'où, en fait, les maisons RDP, comme on les appelle.
Il y a des quartiers au complet qui sont le quartier RDP dans certains townships, qui étaient des maisons qui ont été financées, la construction a été financée par l'État. Et il y avait à l'époque des subventions pour les familles pauvres afin d'acquérir leur première maison. Subventions qui étaient de l'ordre de 2 500 $. Alors, je veux dire, on ne va pas très loin avec 2 500 $ pour acquérir une maison. Déjà, ces maisons-là ont été catégorisées, ont été appelées comme des niches à chiens, expliquant clairement l'état je veux dire, c'est des maisons qui sont délabrées, qui n'avaient souvent pas de plafond, pas de fenêtres, pas de portes entre les pièces, quand il y avait différentes pièces. À partir de 1996, ce logement-là et la grande partie du 1,6 million de maisons que l'ANC prétend avoir financées, à partir de 1993, la construction de ces maisons-là ont été financées par les 5 principales banques du pays, la First National Bank, APSA, les différentes banques sud-africaines, qui non seulement finançaient la construction de ces maisons-là, qui aussi procuraient les hypothèques parce que les maisons étaient souvent beaucoup plus dispendieuses que le 2 500 $ de subvention que les gens avaient du gouvernement. Donc, en finançant les hypothèques, les banques avaient un contrôle total sur la vie des gens. Quand on parle du fait que le taux de chômage en Afrique du Sud est passé de 16 % à 40 % aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont eu la possibilité à un certain moment de prendre une hypothèque pour acheter ces maisons-là, mais ayant perdu leur emploi à partir de 1995-1996...
Se retrouvent face aux banques.
Se retrouvent face aux banques, oui. Qui, elles, ne sont pas aussi gentilles que le gouvernement, qui, à partir du moment où tu as 2 mois, 3 mois d'affilée où tu ne peux pas payer tes paiements d'hypothèque, eh bien, on te fout à la rue. Et il y a tout l'essor d'une nouvelle industrie en Afrique du Sud qui est celle des services de protection privée, services armés et aussi des services d'éviction privée. Donc, les banques vont aujourd'hui engager et le shérif et une équipe, je veux dire, c'est les paramilitaires modernes urbains qui vont avoir la charge de foutre à la porte, finalement, un quartier au complet, parce que c'est des quartiers, dans le cas de Cape Town, c'est des quartiers au complet qui ne sont plus en position de payer les frais d'hypothèque et qui sont totalement, carrément jetés à la rue.
Alors, sur ça, François, ben, ça nous sert d'excellente intro pour le reportage qu'on va écouter, qui s'inspire des mouvements militants en Afrique du Sud, des mouvements dans les townships. Alors, on écoute tout de suite ce reportage spécial que nous avons réalisé en Afrique du Sud.